Bien, donc moi je vais vous traiter le temps et sa mesure et l'aspect datation relative. Alors en guise d'introduction, je vais prendre une introduction qui n'est pas très classique, je vais vous parler des programmes, parce que c'est un peu ce qui vous intéresse en terminale. Donc vous savez que vous avez datation relative ou datation absolue, on vous a mis une semaine d'absolue, une semaine de relative, avec un programme qui est quand même assez démentiel. En absolu, il y a trois couples d'isotopes. En relatif, je vais donner mon avis personnel en tant que paléontologue. Je ne crois pas qu'il faille faire un enseignement de datation relative. Et j'essaie de vous démontrer qu'il faut l'injecter au courant de l'année. La datation relative, c'est quelque chose qu'on peut injecter tout au courant de l'année en géologie. Alors, pour cette datation relative, je l'oppose à la datation absolue sur deux aspects. 27 septembre 1958, c'est une datation absolue dans le vécu quotidien. Et puis après la conférence, alors ça, je ne sais pas, ça peut être dans une heure et demie, c'est variable. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps? Une définition classique que Patrick nous a montrée, qu'on trouve dans tous les livres, et il y a beaucoup de livres où il y a des citations sur le temps, c'est celle de Saint-Augustin. C'est effectivement un bon aspect du problème du temps. Celle que je préfère, c'est celle d'un physicien, c'est Richard Feynman, qui nous dit que le temps, c'est ce qui se passe quand rien ne se passe. Alors, ça, c'est un aspect fréquent. Comme exemple, j'ai simplement prendre une série de grès, c'est des grès éoliens, c'est Zion aux États-Unis. Vous voyez que vous avez des dunes, enfin, c'est un système de dunaire avec des flancs qui sont très, très redressés, et vous avez des discontinuités dans des formations. Et entre ce qui s'est déposé là, c'est comme dans les grès d'Anos, c'est quelque chose qui s'est déposé relativement vite, quelques années à quelques dizaines d'années. Et entre les deux formations que vous avez là, vous pouvez avoir 100 000 ans. C'est un aspect assez général. Dès qu'on est sur des séries qui sont détritiques, qui sont fluviatiles ou continentales, on a plus de temps qui est piégé dans la limite ici que dans la formation elle-même. Alors, comme je suis strasbourgeois, on a de jolis grès des Vosges. Ce grès des Vosges, c'est des dépôts lenticulaires. Là, c'est typique. La lentille se dépose en 2 à 3 heures. C'est une crue dans une rivière qui amène le matériel. Et puis après, on attend 100 ans, 1000 ans, pour qu'il y ait un nouveau bras de rivière qui vienne recouvrir ce qui était là-haut. Alors, le temps, en géologie, de façon générale, n'a pas d'existence s'il n'y a pas d'événement. L'événement est absolument nécessaire pour pouvoir parler du temps et pouvoir le mesurer. Alors, cette notion d'événement, je l'illustre par une théorie qui est une théorie de l'information, qui est informatique, qui date des années 45-46. Il y a un message qui apparaît là. Il est formé de deux symboles, A, B. Et c'est une succession régulière, A, B, A, B, A, B. L'information qu'on a dans ce message est relativement réduite. Par contre, si je prends cette même succession de symboles AB et que j'y colle un C, une seule lettre, un seul, je ne sais pas combien de lettres il y a là-dedans, il doit bien y avoir une cinquantaine, nous apporte l'information. Alors, sans rentrer dans les détails, c'est la notion d'entropie qu'on a dans la théorie de l'information. Je vous signale que c'est quelque chose qui a amené de grands progrès, aussi bien au niveau de l'informatique qu'au niveau de la linguistique. Par exemple, on était capable de réattribuer des textes anonymes à des auteurs en appliquant ces problèmes d'apparition. Un exemple simple, c'est que le THE, la succession, le triplet THE, en français, aura une fréquence quasi ridicule. Par contre, vous passez sur l'anglais, ça va tout casser. Bien. Donc, la notion d'événement, c'est un signal. Alors, un autre exemple, c'est vous habitez dans un immeuble près d'un boulevard où il y a beaucoup de circulation. Vous y êtes depuis 10 ans, vous n'êtes plus dérangé par le bruit. Par contre, là où vous allez sursauter, c'est le crissement de pneus ou c'est la collision qui se passe en dessous. Le bruit de fond ne vous dérange pas, c'est la collision, le bruit de ferraille qui va amener l'événement. Donc, la datation relative est liée à un événement, elle est donc événementielle. À côté de ce côté événementiel, il faut parler du cycle, parce que le cycle, c'est une notion de datation relative qui nous est commune tout au long de la journée. Alors j'ai pris l'aube, le midi, le crépuscule, c'est le cycle d'une journée. Et on verra qu'en géologie, on a aussi toute une datation relative qui peut être basée sur la notion de cycle. Alors, la plus commune qui est utilisée, c'est quelque chose de très très intéressant parce que l'homme y attache beaucoup d'importance depuis 4000 ans, c'est la notion de calendrier. Le calendrier, c'était toujours un des grands soucis de toutes les civilisations. Et un des exemples que je préfère, c'est en fin de compte le calendrier égyptien. Parce que très très longtemps, les Égyptiens ont eu 12 mois de 30 jours. C'est qu'ils avaient 360 jours. Alors ils rajoutaient naturellement 5 jours pour rattraper le coup. Mais au fur et à mesure, les fêtes se décalaient. Or, la société, la civilisation égyptienne ne s'inquiétait absolument pas de faire la fête des moissons en plein décembre. Par contre, comme tous les 176 ans, ils retombaient sur leurs pieds, c'était des années qui étaient extraordinaires où on faisait la fête. C'est-à-dire, ils n'avaient aucun souci du décalage des fêtes par rapport à la saison, mais quand ça retombait sur les pieds, c'était bon. Alors, cette datation relative peut dépendre d'un cycle, elle est donc, ou elle est alors, cyclique. Je vais terminer sur ces généralités en parlant en fin de compte de la flèche du temps, parce que c'est une conception qui est importante. Et je reprends saint Augustin, parce qu'il était quand même assez prémonitoire, il a sorti de très bonnes idées. Il dit le monde et le temps eurent tous deux un commencement. Le monde ne fut pas créé à un moment dans le temps, mais simultanément à celui-ci. Alors là, on rejoint en fin de compte toutes les cosmogonies actuelles, c'est-à-dire la théorie du Big Bang. On part d'un instant initial, on fait exploser le tout, et on fait un univers. Et donc, je vous cite les fameux 10⁻⁰³ que vous pouvez trouver dans tous les ouvrages. Je vous signale que ces 10⁻⁰³, c'est tout simplement une limite qui est liée à la physique nucléaire actuelle. On ne peut pas imaginer avant 10⁻⁰³. Pour revenir sur des faits de religion, c'est quand même quelque chose qui est très important, c'est que toutes les religions judéo-chrétiennes, islamistes, toutes celles qui sont monothéistes, en fin de compte, ont une flèche du temps, commencent à zéro pour aller vers l'infini, alors que toutes les religions polythéistes au monde sont des religions qui sont cycliques, où on vit cette fois, on peut revenir cette fois. Donc ça explique aussi un tas de choses, c'est que l'Église ne s'est jamais souciée de ce que l'abbé Lemaître, c'est lui l'inventeur du Big Bang, c'est quand même un religieux. Pourquoi ? Parce que ça correspondait au schéma avec une création. Le fait que le temps apparaisse avec l'univers ou le monde, c'est aussi intéressant parce que ça permet effectivement de répondre à des questions du genre « Et Dieu, avant la création, qu'est-ce qu'il faisait ?» Eh bien, on répond aux agnostiques, il faisait l'enfer pour mettre ceux qui posaient des questions si stupides. Donc, le temps démarre dans nos cosmogonies avec la naissance lunaire. Alors, cette flèche du temps, en fin de compte, elle est caractérisée par l'évolution. Et ça, je vous montrerai au niveau de la biologie, enfin de la biosphère, c'est un des outils qu'on utilise pour la datation relative, et elle est ponctuée par des événements, des crises, des orogenèses, tout ce qu'on fait. On utilise quelques principes de base pour faire de la datation relative, c'est des principes de stratigraphie d'ailleurs, et un des premiers principes, c'est le principe de superposition. Alors, pour l'enseigner aux élèves, il n'y a pas trop de difficultés, c'est quelque chose d'assez logique. Moi, j'ai choisi de montrer ça à l'aide d'un pont, un pont génois en Corse. Donc, vous avez une arche, vous avez un pilier, et ces piliers sont constitués de pierres, de blocs de granit empilés, et il est logique que les gens qui ont construit ce pont ont commencé par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Alors, c'est important, pourquoi ? Parce qu'on a un sens de polarité. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour avoir cette succession, être sûr de cette succession 1, 2, 3, eh ben, on pouvait difficilement imaginer que le pont était construit à l'envers, et puis on l'a retourné pour le poser. D'accord ? On a donc un critère de polarité qui est la géométrie et l'architecture de ce pont. Une autre notion importante, c'est la notion de fossile stratigraphique. Alors, on dit toujours, un bon fossile stratigraphique, c'est un fossile qu'on doit trouver, qu'on trouve partout, enfin, sur la plus grande surface possible, et qui a une durée de vie assez brève. Alors, le fossile classique, alors, c'est les meilleurs, tout simplement, parce qu'ils sont étudiés depuis le plus longtemps, c'est les ammonites. Les ammonites, c'est depuis le début du 19e, donc 2 siècles qu'on étudie les ammonites, c'est d'excellents marqueurs stratigraphiques. Je vous ai mis ici à côté le Nautile, qui est un homologue, un des derniers survivants. C'est-à-dire, c'est une coquille cloisonnée. Et tout simplement pour montrer que, actuellement, le Nautile, d'ailleurs, il est en fin de vie, hein, il n'y a plus que 2 espèces. Et le Pompilus, ça, c'est son aire de vie. C'est un tout petit domaine qui est situé, en fin de compte, au nord-est de la Nouvelle-Guinée. Or, ces coquilles de Nautile, on les retrouve quasi jusqu'à la mer de Bering. Pourquoi ? Parce que quand un Nautile meurt, sa matière organique se décompose, ses loges se remplissent de gaz, et cette coquille flotte. Et elle flotte très longtemps. Elle est emportée par les courants. Donc, et ça, il n'y a quasi que la structure céphalopode qui permet cette dispersion par les courants. Hein, ce n'est pas les gastéropodes ni les sèches. Donc, un fossile stratigraphique, c'est quelque chose aussi qui est bien dispersé. Alors, il y a des problèmes intéressants actuellement parce que quand on compare les marges d'Amérique du Nord et les marges d'Espagne lors de l'ouverture de l'Atlantique Nord, eh ben les structuralistes nous disent « Oui, mais regardez, c'est tout à fait différent. En Espagne, on a beaucoup d'ammonites et puis sur la marge du New Jersey, on n'a quasi pas de fossiles. » Donc, ils cherchent des questions environnementales, tout ça. Je leur dis « Non, non, c'est une question de courant. » C'est-à-dire que les courants marins ont fait de telle façon que l'essentiel des céphalopodes ont été entraînés sur la marge ibérique, c'est ça. Alors, l'approche géométrique de la datation relative. Un exemple simple qui est dans la Drôme, là, montagne de la Drôme, du côté de Vesque. Vous avez donc des marnes bleues, il y en a plein, c'est épais, il y en a 600 à 800 mètres dans cette région-là. Et puis, au-dessus, vous avez des terrains calcaires, qui sont des marnes calcaires autriviens, qui sont séparés par un contact anormal, qui est ici souligné en rouge. Je vais faire un agrandissement. On voit donc les marnes calcaires autriviens ici. Les marnes bleues là, vous voyez le pendage des marnes bleues, c'est quasi du subhorizontal. Par contre, tout ce bloc-là, enfin cet ensemble-là, vous voyez qu'il est sacrément plissé. Ces marnes calcaires ont simplement été charriées au-dessus de ces marnes bleues. Vous avez donc des terrains qui sont plus anciens, plus vieux, qui surmontent des terrains plus jeunes. Je vais en profiter ici, puisqu'on est dans l'échelle stratigraphique. Vous voyez que vous avez là les premiers étages du Crétacé. Et je vous rappelle que le nom des étages, Beriasien, Valanginien, Autrivien, Barimien, tout ça, c'est basé sur des stratotypes, c'est-à-dire des localités où ont été définies la succession. Ces étages, où là, on dit que l'Autrivien est marno-calcaire et puis le Gargasien. Alors, le Gargasien, c'est la moitié supérieure de l'Aptien, hein, plus l'Albien. C'est des marnes bleues. Attention, les noms d'étages ne sont pas définis à partir des lithologies que vous y rencontrez. C'est toujours défini à partir des bêtes. Hein. C'est une biozone qui marque chaque fois le début d'un étage. Un autre type d'approche géométrique, alors là, c'est quasi à l'autre bout du monde, c'est en nommant. En fin de compte, c'est des gabbros qui sont isotropes. Et dans ce gabbro, vous avez un dike. Manifestement, ce dike a été injecté postérieurement à la cristallisation des gabbros. Et vous voyez même que vous avez ici des fracturations hydrauliques qui soulignent cette intrusion. Là, je vais aborder dans l'approche géométrique un aspect cyclique. Et j'ai ressorti là une illustration d'un article de Lavoisier, publié en 1789, où vous avez en fin de compte les prémices de la stratigraphie séquentielle. La stratigraphie séquentielle, c'est actuellement un des grands chevals de bataille de la sédimentologie. Et bien Lavoisier commence déjà à expliquer de façon tout à fait correcte que les variations du niveau de la mer, et ben, ça amène des géométries qui sont variables dans l'enregistrement sédimentaire. Les différents exemples que je vais prendre, c'est à partir de ce genre de schéma. Moi, j'aime beaucoup, et je crois que c'est peut-être un peu utopique, mais on peut, au courant de l'année, en terminale, avoir distribué ce genre de schéma à l'élève et de temps en temps y revenir, parce qu'on a à peu près tout qui est regroupé là-dedans, les terrasses. Donc, j'illustrerai que quelques aspects. Mais vous avez là un condensé de tout ce qu'on peut faire en datation relative. Alors on va regarder justement un phénomène lié à un cycle, et c'est le phénomène des terrasses fluviatiles. Alors c'est un extrait de la carte de Lourdes au 50 millième. Vous avez les terrasses ici qui sont en gris, avec des lettres FX, FY, FZ, etc. Vous avez une première terrasse ici, qui est FW, ou FV, qui est à 550 mètres d'altitude. Vous avez une deuxième terrasse, FZ, dont l'altitude moyenne est de 425 mètres. Et vous avez une troisième terrasse, qui est, je suppose, FZ, voilà, dont l'altitude moyenne est de 380 mètres. Cette terrasse FZ, c'est la terrasse la plus récente. Donc là, c'est un des rares cas où le principe de succession verticale ne marche pas, c'est que dans les terrasses fluviatiles, on a une inversion, les plus anciennes sont les plus hautes et les plus jeunes sont les plus basses. Alors on va voir pourquoi. Comment se forme une terrasse fluviatile? C'est lors des phases glaciaires et interglaciaires avec des variations de niveau de la mer. Le niveau de la mer est haut en interglaciaire. Vous avez une source, un fleuve, un profil d'équilibre, et le niveau de la mer. Vous avez une certaine différence de potentiel liée à l'altitude entre la source et le niveau de la mer. Le niveau de la mer baisse. La source reste à la même altitude. Vous augmentez, en fin de compte, l'altitude entre la source et le niveau. Donc, vous augmentez l'énergie potentielle de votre fleuve et vous allez faire une incision. Le niveau remonte, vous baissez le potentiel et vous alluvionnez. Si on fait une coupe, en altitude, mais à la base. Le niveau de la mer est bas. Vous incisez et vous évacuez du matériel. Le niveau de la mer remonte, vous allez alluvionner et vous faites la première terrasse ici, celle qui est aujourd'hui à je ne sais plus combien, 580 mètres, je crois. Vous faites rebaisser le niveau de la mer, vous refaites une incision. Vous passez à un interglaciaire, le niveau de la mer remonte, vous alluvionnez, vous déposez la deuxième terrasse. Allez, une troisième phase glaciaire, on incise, on fait remonter le niveau de la mer par la fonte des calottes glaciaires et on dépose la troisième terrasse. Donc, vous retrouvez ici les trois terrasses. La première, la plus haute, en rouge, la seconde, en violet, brun-violet, intermédiaire, et la plus récente, en bleu. Deuxième aspect qu'on peut illustrer à partir de ce schéma, c'est en fin de compte la notion de fracture, de faille. Alors là, la carte que je vous présente, c'est la carte d'Alès, au 50 millième, qui est une carte très intéressante. Vous avez des formations paléozoïques et vous avez des formations mésozoïques. Et vous avez aussi des terrains plutoniques métamorphiques, pardon. Vous avez tout d'abord un chevauchement ici. Ce chevauchement est recoupé par une faille ici, grosso modo nord-sud, en bleu, qui elle-même, à ce niveau-là, est recoupée par une faille verte, qui est nord-ouest-sud-est. Le tout est oblitéré ici par une transgression, enfin une limite, qui sont les terrains triasiques sur l'ensemble du Paléozoïque. Donc vous voyez que dans un petit cartouche, et je crois que il faut faire de la carte avec les élèves, c'est quelque chose d'important et d'intéressant, ce qu'il y a, il faut absolument ne pas travailler sur des grandes cartes, travailler sur des extraits format A4, et sur ALES, ça doit faire 15 cm x 10. Donc vous voyez que sur ce petit ensemble-là, et je n'ai pas tout sorti, on peut parfaitement illustrer la notion de datation relative, de chronologie successive, entre ce chevauchement qui affecte le Paléozoïque, cette première faille ici, en bleu, puis la faille verte qui recoupe la bleue, et enfin ce contact-là qui recoupe effectivement le chevauchement. Troisième aspect, la discordance. Et vous avez ici, en fin de compte, sur ce schéma-là, un socle, une base qui est conglomératique et une discordance de terrains sédimentaires du type carbonate de calcium magnésienne. Là, c'est la carte de France au millionième. C'est le coin nord-est avec les Ardennes. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout d'abord une première limite des terrains jurassiques qui sont transgressifs, effectivement, sur des formations cambriennes, dévoniennes, des Ardennes. Puis, du Crétacé ici, qui, lui, est encore plus transgressif, qui recouvre, effectivement, aussi du Jurassique, avec un premier aspect qui est intéressant, c'est que vous voyez que là, vous avez une petite butte témoin de Crétacé. Donc, en réalité, si on veut essayer de dessiner la limite de la mer minimale, il faut englober aussi cette petite butte témoin de Crétacé. Enfin, il y a l'Éocène qu'on retrouve ici, mais aussi en butte témoin sur le massif ardennais. Et dernière série de buts témoins, c'est le Miocène, c'est la transgression qui a été le plus loin sur le massif ardennais. Après les discordances, on va voir les plis. Ça aussi, je crois que vous avez, et dans la région lyonnaise, vous n'avez vraiment aucun problème, ni sur le terrain, ni à l'aide des cartes. Alors là, ça c'est une série de plis, et vous voyez même qu'il y a un double plissement, puisque vous avez une première forme qui est assez grande du pli, et puis vous avez des plis secondaires, donc c'est une série qui est doublement plissée. Je vous ai sorti comme exemple quelque chose de beaucoup plus simple, un pli vraiment le plus simple possible qu'on peut trouver à quelques kilomètres d'ici. Il suffit d'aller dans le massif des Préalpes et pour illustrer cet aspect-là. Après les plis, le métamorphisme. Et pour le métamorphisme, j'ai sorti comme exemple la carte de Condé sur Noireau, carte au 50 millième dans la région bretonne, mais vous trouverez la même chose entre Lyon et Saint-Étienne là. Enfin, là, vous avez un joli massif granitique et vous avez autour de ce massif granitique une auréole métamorphique. Vous voyez que dans le coin sud-est ici de cet extrait, vous avez une série de terrains qui, eux, ne sont pas affectés par le métamorphisme. Alors, j'ai fait un agrandissement. Vous avez donc les granites, l'ensemble de granites ici, puis la série qui est métamorphisée, qui est donc plus ancienne que les granites, puisqu'elle a été métamorphisée par ces granites. Et enfin, la troisième série ici, qui, elle, est postérieure, puisqu'elle n'a pas subi le métamorphisme. Un exemple qui est alsacien, c'est Célestat, la carte de Célestat au 50 millième. Tout simplement pour vous montrer qu'on peut avoir des métamorphismes qui sont un peu plus complexes. Je le prends surtout parce que cette série métamorphique, qui est celle des schistes de Stège et par les granites d'Andlau, c'est là qu'a été définie pour la première fois la notion de métamorphisme. C'est Rosenbusch, 1874, qui a défini pour la première fois le métamorphisme. Et vous avez là, donc, les schistes de Villers ici, qui sont précambriens, les schistes de Stège, et ces six schistes de Stège sont métamorphisés d'une part par les granites d'Andlau, les granites du Howald, mais aussi par les granites d'Andlau. Donc on a un polymétamorphisme, ça ne se voit pas sur la carte, mais ça se voit très bien sur des lames minces. Dans la datation relative, un autre outil qui est important, c'est l'approche biologique, c'est-à-dire l'utilisation des faunes et des flores qui sont les sédiments. Je vous ai montré avant une ammonite, là je vous montre des microfossiles, des coccolithes, c'est-à-dire c'est une demi-coccosphère, une diatomée et des radiolaires. Alors je vous montrerai une échelle de radiolaires. J'y ai passé pas mal de temps, comme Patrick de Wever. On a tous les deux comme spécialité l'étude des radiolaires. Pas des époques tout à fait semblables. Mais... Donc, voilà un ensemble de radiolaires. Alors, comment dire ? La définition de la datation en paléontologie est basée sur la biozone. Et cette biozone, le plus souvent, elle est caractérisée par l'apparition d'une espèce, et d'une espèce qui est abondante, facilement reconnaissable. Donc ici, ce que je vous montre, c'est la biozone à Podocyrtis en plat, qui effectivement est caractérisée là, hein, la Podocyrtis en plat, par l'apparition de cette espèce-là. Et le sommet de la zone à Podocyrtis en plat est simplement marqué par la base de la zone à Podocyrtis mitra, qui est cette espèce-là. Donc ce sont le plus souvent des apparitions d'espèces qui marquent le bas de la biozone, le sommet étant marqueur, étant caractérisé par la base de la biozone suivante. Alors naturellement, en ayant... Alors ça permet de faire des colloques et des congrès, de réunir les paléontologistes, parce qu'il y a des discussions sauvages sur quelle est la meilleure bête pour découper le temps. Bon, après de multiples réunions, on arrive à des consensus, ou alors il n'y a pas de consensus, donc il y a différentes écoles, ce qui est très ennuyeux des fois. Pour les diatomées, par exemple, on a actuellement trois écoles au monde. Donc il y en a une japonaise, Kozumi, il y en a une allemande, Schrader, il y en a une américaine. Et chacun utilise ses... marqueur biologique à lui, ses diatomées à lui. Donc il est quasi impossible de corréler les travaux de ces trois différentes écoles. Chez les radiolaristes, c'est beaucoup plus simple. De toute façon, on a considéré jusqu'en les années 50 que c'était des mauvais marqueurs fossilifères. Donc il y a un homme qui a repris ça, c'est Bill Riddell, et on est tous passés entre les mains de Bill Riddell. On ne discutait pas quand on était jeunes, on allait en Californie faire notre stage à la Mecque des radiolaires qui étaient à la Scripps. D'ailleurs, c'est intéressant le problème des radiolaires. C'est que vers les années 1870, il y a une mission océanographique faite par le Challenger. C'était une des premières missions océanographiques. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle Ernst Haeckel, que vous avez sûrement dû entendre, hein, un biologiste qui a fait cette mission et qui a étudié les radiolaires qui étaient déposés au fond des océans. Il considérait que tout ce qui était au fond des océans, c'était actuel. Donc, il a fait un superbe ouvrage. Il y a deux volumes écrits, un volume de planches. Et à peu près au même moment, il y a un autre mastodonte, là, mammouth de l'époque, qui s'appelle Ehrenberg. Et Ehrenberg était allé à la Barbade, où il a ramassé des sédiments. Il savait qu'ils avaient 50 millions d'années, qu'ils étaient éocènes. Et il a publié, quelques années plus tard, ces bestioles à lui. Et on a vu qu'il y avait les mêmes bêtes chez Haeckel, dans des sédiments soi-disant actuels, et chez Ehrenberg. Donc les gens ont dit, ben, les radiolaires, c'est un groupe qui évolue pas. Donc c'est pas intéressant. Et ça a été complètement abandonné. Hein. Alors, l'explication est simple. C'est tout simplement que Haeckel, dans leur mission, eh ben, ils ont raclé des sédiments qui étaient des sédiments éocènes, au fond de l'océan. Parce qu'on a aussi de l'altération, enfin, on a d'évacuation. Donc, il y a quelques études sur les radiolarites alpines, et puis Popov dans les mers du Nord. Mais sinon, il a fallu attendre 1950 pour que Riedel démontre que les radiolaires, ça donne d'aussi bonnes échelles que tous les autres microfossiles. Alors, je reviens justement sur cette notion de stratotype. Alors, par exemple, le Beriasien, c'est le premier étage du Crétacé, et il était défini à Berias, en Ardèche, vous les connaissez, c'est pas loin. Comme souvent, les stratotypes sont définis par des géologues, donc il faut chercher le bistrot. Chercher le bistrot à Berias, à côté, il y a une petite rivière, et dans ce cours, c'est un rue qui est le plus souvent à sec, vous pouvez y aller, vous avez la succession du Beriasien, telle qu'elle est définie officiellement. Le barémien est un autre bel exemple. Le barémien a été défini à Barème, dans les Hautes-Alpes. Mais on s'est rendu compte assez vite que le barémien qui était décrit à Barème, eh ben, il manquait. Il manquait pas mal de morceaux. Donc, on a défini ce qu'on appelle un parastratotype. Et ce parastratotype, il a une vingtaine de kilomètres sur la route d'Angle, où on a une série plus grande. Alors, je crois que l'étage le plus catastrophique pour ça, c'est le cénomanien, défini à Rouen. Et le cénomanien de Rouen, il n'y a même pas 10% de l'enregistrement sédimentaire du cénomanien. Alors, ça aussi, ça permet de faire des réunions, des colloques, parce que c'est quelque chose qui évolue. Alors, ça, je crois qu'il faut aussi bien le faire passer aux élèves. Une échelle stratigraphique, c'est une succession de noms, mais c'est un modèle. C'est une fois de plus, en sciences de la Terre, on n'a que des modèles, ou quasi, hein. C'est un modèle qui est le plus satisfaisant actuellement, mais demain, une découverte peut faire qu'on va créer un nouvel étage ou subdiviser un étage. Bon, à la longue, ça se stabilise quand même. Hein, Alors, ça c'est... Pour cet exemple, c'est une série cyclique qui est très très fréquente dans le sud-est là. Dès que vous baladez entre Lyon et Marseille et que vous rentrez un peu dans les Préalpes, vous avez la série Haute-Rivienne. C'est une magnifique succession de bancs calcaires, d'interbancs marneux, ça se voit des kilomètres en voiture. Enfin bon, c'est sûrement la formation la plus facile à obtenir. Ce que je vous disais avant, c'est que l'Haute-Rivien, ben, sous l'Haute-Rivien, il y a le Valanginien. La base de l'Haute-Rivien, alors le Valanginien ici, dans ce coin-là, il est très, très argileux. Hein. Il y a des petits interbancs calcaires, tout fins. Et tout à coup, on voit apparaître ces gros bancs. Eh bien, l'apparition, le premier gros banc, ne marque pas le début de l'Haute-Rivien. Le début de l'Haute-Rivien est caractérisé par une biozone, à ammonite. Et pour l'instant, cette ammonite, on l'a trouvée dans ce banc-là. C'est-à-dire que, stratigraphiquement, l'Haute-Rivien commence ici, alors que ces gros bancs-là encore, c'est le sommet du Valanginien. Alors, pour la notion d'événement qui peut marquer une datation relative, il y a naturellement les grandes crises et les grandes extinctions. Je rappelle que le grand découpage, alors le découpage précambrien, paléozoïque, ça, c'est un des premiers qui a existé. C'est absence de fossiles et apparition de fossiles. Hein, c'est ces 0,5 millions d'années que Patrick a montré avant sur son échelle. Et après, il y a quoi ? Il y a la séparation paléozoïque-mésozoïque, primaire, secondaire, et secondaire, tertiaire. Les deux, ces deux grandes limites, hein, qui ont été parmi les premières à être établies, c'est basé sur des crises. Celle de la limite Crétacé-Tertiaire, vous la connaissez depuis des années. Je trouve d'ailleurs que c'est très intéressant, point de vue exercice scientifique pour des élèves, puisqu'on peut amener deux hypothèses, hein, il y en a deux qui se sont succédées, qu'on peut coupler, qui sont celles de l'impact de Chicxulub, ou bien alors c'est le volcanisme du Deccan. Donc en l'espace de 15 ans, on est passé par différentes modes. Actuellement, c'est plutôt l'impact qui est prédominant, surtout qu'on commence à affiner les datations, et le volcanisme du Deccan est 300 à 350 000 années antérieures à l'impact de Chicxulub. Donc, une des solutions sûrement les plus logiques actuellement, c'est de dire qu'on a un volcanisme important, qui est le volcanisme du Deccan, qui va affaiblir, qui va mettre des contraintes dans les systèmes biologiques. Et puis après, vous avez le coup de marteau là qui marque l'extinction finale. Alors, ces impacts de météorites, de grosses pierres, effectivement, elles servent aussi à la datation relative, mais sur des objets qu'on aborde maintenant un peu plus, qui sont les planètes du système solaire, ou alors la Lune, notre gros satellite. Alors là, j'ai sorti cet exemple parce que vous avez ce petit schéma qui se trouve dans beaucoup de livres, même des livres secondaires, et qui est souvent mal expliqué. Alors on vous dit bien que la densité des cratères, hein, vous voyez qu'elle est importante dans les temps reculés, 4 milliards d'années, et puis qu'au fur et à mesure, ça diminue. Bon, c'est l'histoire de la formation de la Terre aussi. Intense bombardement météoritique. Mais comment est-ce qu'on a pu réaliser, en fin de compte, cette courbe-là? C'est parce que l'homme est allé sur la Lune et a échantillonné. Et donc, Fra Mauro, la formation Collet, la Mare Tranquillitatis, tout ça, ce sont des échantillons qui ont été ramenés par la mission Apollo et qui ont été datés. Et après, on a fait du comptage de cratères sur ces régions-là. Un autre bon repère événementiel, c'est en fin de compte les niveaux de cendres volcaniques. Alors là, c'est simplement une photo, une image du mont Saint-Hélène. Effectivement, c'est le volcanisme andésitique explosif qu'on a sur le pourtour du Pacifique. C'est très très intéressant parce que vous crachez dans l'atmosphère une grande quantité de débris, de cendres, et qui, lorsqu'ils montent assez haut, qu'ils dépassent en fin de compte la troposphère et qu'ils rentrent dans la stratosphère, sont capables de couvrir une grande surface. Alors, je prends comme exemple là une série américaine. C'est dans la limite du sémin turonien. On a là des niveaux repères notés A, B, C, D, E, qui sont des niveaux de cendres. Alors, ces cendres se reconnaissent assez facilement parce que l'altération des cendres volcaniques amène le plus souvent à des bentonites, un type d'argile. Et vous voyez que on peut donc, sur des coupes qui sont relativement distantes de plusieurs dizaines à centaines de kilomètres, faire des corrélations à l'aide de ces niveaux volcaniques. On peut faire la même chose en France. Vous avez là à Saint-Jaume une série abscienne. Et dans cette série abscienne, on a défini différents niveaux, les niveaux Gogel, les niveaux Fallot, grâce tout d'abord à des niveaux là qui sont des niveaux de calcaire, mais surtout à l'intérieur des niveaux de bentonite. Alors vous avez ici un exemple. Alors c'est un géologue très amateur de peinture qui a décrit ces niveaux. Donc il y a des niveaux Van Gogh, Matisse 1, Matisse 2. Et vous avez ici l'aspect qu'ont ces niveaux de bentonite dans ces séries. Vous voyez que ça s'identifie très bien C'est une couleur un peu rouille. Donc ça permet effectivement de faire des corrélations à l'intérieur d'un bassin sédimentaire de façon relative. Et surtout, ça permet de repartir sur d'autres raisonnements qui sont avec le repère biologique, hein, l'apparition, l'extinction de bêtes, de se poser la question, est-ce que les apparitions sont synchrones? Parce que ça, c'est un a priori qu'on avait considéré avant, que les bêtes apparaissent partout la même chose. Or, il y a des conditions écologiques, il y a différents trucs. Donc, vous voyez là, différents types de foraminifères. Ces types de foraminifères, on vous présente l'apparition et la disparition dans une série donc synthétique ici, avec tous les niveaux. Et vous voyez que on a alors, des incertitudes qui peuvent être soit d'échantillonnage, hein, on a mal échantillonné, soit parce qu'effectivement il y a décalage. Donc par exemple, à Ferenolensis, vous voyez qu'on peut avoir jusqu'à 1 million de différences au niveau de l'apparition. Par contre, l'Algériana, vous voyez que c'est une bestiole, c'est très bien la fourchette d'incertitude est de l'ordre de 50 000 ans. Alors, je ne vous l'ai pas dit avant, mais les meilleures datations actuelles sont celles qui sont faites à partir d'ammonites. Vous avez dit que c'est parce que ça fait 2 siècles qu'on y bosse. Avec les ammonites, on arrive à découper du temps relatif de l'ordre de 100 à 150 000 ans actuellement. Par contre, les radiolaires, on les étudie que depuis une cinquantaine d'années. Nous, on est plutôt à 1 ou 2 millions d'années, et encore quand tout va bien. Hein. Alors, dans les cycles, il y a une cyclicité que vous connaissez bien, puisque vous devez l'aborder dans le programme 2 secondes, c'est Milankovitch. Donc, c'est les variations cycliques d'ensoleillement. Je vous rappelle tout simplement, bon, c'est l'excentricité, 95 000 ans. C'est l'obliquité, 41 000 ans, entre 22 et 24. Et enfin, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes à 21 700, qui, je vous le rappelle, est une combinaison, en fin de compte, de deux choses. C'est la précession de l'axe de rotation. C'est le coup de la toupie, hein, quand vous mettez une toupie. Eh ben, à la fin, la toupie, son axe de rotation décrit un cône. Et puis, le mouvement des absides. Ça, c'est comme image, la meilleure que j'ai, c'est le mouvement de hula hoop. C'est-à-dire de hula hoop. L'orbite de la Terre fait un hula hoop autour du Soleil. En 126 000 ans, ça fait un tour. Bien. Non, c'est pas ça. Ces trois variations des paramètres de Milankovitch vous font varier l'ensoleillement. Et donc, lorsqu'on regarde la variation de l'excentricité, celle de l'obliquité, celle de la précession, vous pouvez faire un calcul, enfin, vous obtenez cette courbe-là, qui est la courbe d'ensoleillement théorique potentiel, qui est la référence lorsqu'on fait de la paléoclimatologie sur le dernier million d'années. Ce que je veux dire, cette variation d'ensoleillement va amener des glaciations, des interglaciations, etc., etc., mais surtout va être enregistré de façon variable, soit par les isotopes, par exemple les isotopes de l'oxygène, soit par si vous faites de l'abondance d'espèces d'eau froide, d'espèces d'eau tempérée, vous pouvez faire une multitude de courbes. Donc, cette variation cyclique de Milankovitch est enregistrée de multiples façons dans les sédiments. Et donc, vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire qu'en ayant un profil d'isotopes de l'oxygène, en posant a priori le postulat qu'il n'y a aucun hiatus, hein, parce que si vous gommez là 50 000 ans, c'est foutu. Mais si vous avez tout en continu, eh ben, vous pouvez calculer quasi à l'année près un niveau sédimentaire en partant des paramètres 95 000, 41 000 et 21 700 ans. C'est ce qui se fait actuellement en océanographie. On date les sédiments les plus récents des 2 derniers millions d'années, en faisant une courbe d'isotope de l'oxygène, en la déconvoluant, en faisant des analyses de Fourier, et on obtient des âges. Donc, alors, c'est le même problème que pour le paléomagnétisme. On considère qu'on a la série en continu, pas de hiatus. Parce que le palimanti, c'est la même chose. Hein. Vous enregistrez noir, blanc, noir, blanc. Mais si jamais vous avez 1 million d'années qui manquent, vous sautez 3 noirs, et bien c'est foutu. Alors, un autre exemple de ces datations, justement, sur à l'aide d'isotopes, c'est sur les spéléothèmes, c'est sur les stalactites. Et vous avez un objet qui est très important parce que c'est sur cet objet-là qu'on a fait la première courbe de delta O18 continentale. Hein, ça vient du Texas. Vous savez que les isotopes de l'oxygène, on en fait beaucoup dans le milieu marin, mais on a très très peu de données sur les continents, de variations de température sur les continents. Alors voilà un aspect de la datation relative, avec de multiples exemples. Mais je vais quand même vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples. Et je vais prendre 2 exemples pour vous montrer des difficultés qu'on a dans la datation relative. Tout d'abord, c'est cette notion d'échelle, échelle de radiolaire, échelle d'ammonie, tout ce que vous voulez. Il y a une technique qui est apparue il y a 15 années qui s'appelle la biochronologie quantitative. Elle est basée sur la théorie des graphes. Alors, la théorie des graphes, c'est une théorie mathématique qui regarde tout simplement la liaison entre différents domaines. Alors, je m'explique, c'est que par exemple, dans le monde des diatomées, où il y a ces problèmes avec 3 écoles différentes, on a des discussions sur quel est l'organisme qui va marquer de la façon la plus évidente la base d'un étage donné. Dans ce genre de démarche, on ne s'occupe plus de priorité, on prend toutes les bêtes qu'on a. C'est-à-dire, on a X forages, 200 forages, avec 300 espèces, on ne donne plus de priorité. Et ce qu'on fait, on regarde tout simplement les relations espèce à espèce. C'est-à-dire que, alors je donne des numéros là, sur un petit exemple, l'espèce 7 a toujours été trouvée dans tous les sondages au-dessus de l'espèce 8. D'accord. On a trouvé l'espèce 7 au même niveau que l'espèce 9. Coexistence. La 7, toujours au-dessus de la 10. On l'a trouvé en coexistence avec la 11, la 12, la 13, etc., etc. Par contre, on a toujours trouvé la 2 au-dessus de la 7. Donc, on explore de façon méthodique les relations au-dessus, en dessous ou coexistence des espèces sur l'ensemble des forages ou des coupes que l'on a. Alors, c'est un exemple simple, hein. Il est basé sur 15 espèces, pas beaucoup là. Donc, vous obtenez ce genre de schéma. Ça fait un peu foutoir, mais c'est les relations logiques de ces 15 espèces entre elles. À partir de là, on a des choses où ça ne marche pas, ce qu'on appelle les configurations impossibles. Alors, exemple de configuration impossible, c'est que on a l'espèce verte ici, qui est au-dessus de la jaune qui est au-dessus de la rouge, et la rouge qui est au-dessus de la verte. Ça ne peut pas marcher. Ici, on a une jaune, une rose, une verte et une bleue. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que l'espèce verte est toujours au-dessus de la jaune, que la rose est toujours au-dessus de la bleue, mais que la verte et la bleue coexistent, et que la jaune et la rose coexistent. Là aussi, c'est vrai. Donc qu'est-ce qu'on fait? On gomme. On prend sa gomme et on supprime ces relations. Mais il n'y a pas que des choses qu'on supprime, il y en a des qu'on peut extraire. Par exemple, lorsque vous avez ce type, on a l'espèce 1, au-dessus l'espèce 2, puis l'espèce 3. Et on a coexistence ici entre 1 et 3. Donc, je peux schématiser ce cycle-là par 1, 2, 3, d'accord ? Et la relation ici entre 1 et 3 de ce type-là. Donc, que représente ceci? Ça peut être ce schéma-là, une espèce 1, qui effectivement est la plus ancienne, qui pour une raison ou une autre n'est pas enregistré ici, ça peut être des conditions écologiques, n'importe quoi, la 2 ou la 3, ou alors on a ce schéma-là, c'est-à-dire on a l'espèce 1, la 2, qui reste, elle est stable, et au contraire, c'est la 3 qui n'a pas été enregistrée dans le bas de la série et qui se trouve en haut. Et donc, on peut transformer ce graphe-là en deux graphes plus simples de ce type-là qu'on a là. Autre exemple. Rouge, vert, noir, bleu. La bleue est au-dessus de la verte. On a ici le temps, on a l'espace. Je représente simplement le domaine d'existence dans l'espace et dans le temps. Donc, la bleue à la base, la verte au-dessus. La bleue coexiste avec la rouge, donc j'ai une intersection. Elle coexiste avec la noire, donc j'ai une intersection. De même, la verte coexiste avec la rouge, intersection, et la verte coexiste avec la noire, intersection. Donc, voici le schéma. Ça veut tout simplement dire que rouge et noir ont coexisté, et je peux donc rajouter ici une arête. Donc vous voyez qu'à partir du schéma de départ, j'enlève les configurations interdites, et j'essaye d'amener le maximum d'informations avec le reste. Et voilà ce qui me reste. C'est-à-dire à partir de là, ce que je conserve, ce n'est plus les relations au-dessus, en dessous, mais les relations de coexistence. Voilà le schéma de coexistence de mes 15 espèces. Et ce que je vais extraire là-dedans, c'est des associations. C'est-à-dire que dans ce schéma-là, je vois que mon espèce 5 est liée avec la 2. Et la 2 n'est liée avec aucune autre espèce. Donc je peux dire qu'une caractéristique, c'est 2 et 5. Ça me fait une première famille. Après, qu'est-ce que je vois? Je vois que 5, 7 et 3 coexistent ensemble, mais ne sont rattachés à aucune autre. Donc, j'ai un deuxième ensemble, 5, 3, 5, 7, etc., etc. Donc, j'arrive à faire des paquets de bestioles qui coexistaient à un moment donné. Il suffit après que j'ordonne tous ces paquets. Et j'ai une échelle qui est totalement objective. On ne peut plus discuter. On va plus discuter que telle ou telle espèce, que la 5 est meilleure que la 7, ou inversement. Alors, comment dire? Nous, avec les radiolaires, on a ce problème-là, parce que la fossilisation des radiolaires, elle n'est pas évidente. C'est quelque chose qui est relativement difficile à fossiliser. Dans des séries calcaires, c'est souvent dissous. Donc, on a un message paléontologique qui est tronqué. Ce genre de technique nous a permis d'affiner nos échelles stratigraphiques et surtout de les rendre cohérentes. Le deuxième exemple, c'est celui de la définition de l'espèce. Alors, vous savez, parmi les multitudes de groupes fossiles qui sont utiles, il y en a des qui sont très utile dans les séries continentales, c'est les rongeurs. Donc voilà, c'est des mimomys. Alors les rongeurs, c'est un avantage, c'est que ça pullule, ça se reproduit à une vitesse grand V. Ils ont un taux d'évolution qui est très très élevé. Et surtout, leurs dents se conservent très bien. Alors pour vous dire, toute la biostratigraphie sur les rongeurs continentales est faite sur la molaire M2. C'est la molaire inférieure, la deuxième molaire inférieure. Alors vous voyez là trois. Alors ça, c'est les surfaces d'usure. Hein, c'est les dents qui. C'est les surfaces d'usure des mimomys. Donc l'Occitanus, le Polynicus et l'Ostramensis. Vous voyez que c'est très bon marqueur. 3-4 millions d'années, 2-5-3, 1-7-1-8. Il est évident que même les spécialistes ont parfois des doutes puisque vous travaillez sur une silhouette. Alors jusqu'à présent, on avait des mesures quantitatives de ces dents qui étaient genre longueur, largeur, mais on ne va pas loin. C'est comme si on prend une mandibule, on mesure longueur, largeur. Il y a des techniques aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle des technique d'analyse de Fourier. J'essaie de vous expliquer simplement. C'est défini à partir d'ellipses. Or, une ellipse est définie par quoi ? Par une longueur de grand axe, une longueur de petit axe. Et l'angle que fait cet axe, le grand axe de l'ellipse avec un axe de référence. Ça, c'est le départ, la première ellipse. Sur cette ellipse, on fait tourner un vecteur, noté bêta ici, enfin avec un angle bêta. Et à l'intersection de ce vecteur avec la première ellipse, on va créer une deuxième ellipse, deuxième harmonique. Alors, vous allez voir, première ellipse, les vecteurs des ellipses de deuxième ordre, des ellipses de troisième ordre, de quatrième ordre, de cinquième ordre, etc. On peut aller jusqu'à l'infini. Et vous voyez que ici, tout simplement, avec une, deux, trois, quatre, cinq harmoniques, cinq ellipses emboîtées, on arrive à faire un contour là qui pourrait être une mandibule d'homme de Maurer. Avec les techniques de Fourier elliptique, vous pouvez décrire n'importe quelle forme de façon simple et surtout objective. Là, c'est un autre exemple. Encore une fois, à l'aide de cinq harmoniques, on dessine une forme de ce type-là. Alors, je vais vous montrer une reconstruction d'une dent de Mimosis. Donc, oui. C'est un rappel des trois morphologies. La première harmonique définie. La deuxième harmonique qu'on a vous donne cette forme-là. La troisième. La quatrième. Donc, c'est une succession d'harmoniques. Et vous allez voir qu'on va se rapprocher de plus en plus du contour de la dent. Ici, on a sept harmoniques. La septième. La huitième, la dixième, je saute des étapes, 12, 22 harmoniques, 26 harmoniques, 32, et ça doit être la fin, 64. Alors ça, c'est un des objets les plus compliqués qu'on a décrit. Ce que je veux dire, c'est que avec 64 ellipses, ces ellipses, je vous ai montré qu'elles étaient définies par 4 paramètres. Donc 64 fois 4, ça fait 256. Avec 256 valeurs, on décrit parfaitement, on s'arrête à 99,9% de similitude de profil, on décrit parfaitement un profil, aussi compliqué soit-il. Alors, naturellement, il faut des ordinateurs pour faire ça. C'est pas la main qu'on fait ce machin-là. Mais après, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos données quantitatives? Vous faites tout simplement de l'analyse multifactorielle, multicomposante, et vous voyez que les trois lots de dents de Mimosis qu'on a sont parfaitement séparés sur des analyses multicomposantes. Alors, ce que je veux dire, c'est que ces techniques-là, impossibles il y a une quinzaine d'années encore, parce que l'outil informatique n'était pas assez performant, nous permettent aujourd'hui d'aborder de façon quantitative et objective les morphologies. C'est-à-dire éviter ces discussions qui ont fait perdre des fois énormément de temps sur la notion d'espèce en paléontologie. D'ailleurs, en tant que paléontologue, je n'ai jamais utilisé le terme d'espèce dans mes travaux. Moi, je parle de morphotype. Nous ne pouvons pas parler de... Nous n'avons aucun critère pour parler d'espèce. Bien, donc en conclusion, je vous ai montré quelques aspects de la datation relative telle qu'on peut la présenter à des élèves. Et surtout, j'ai voulu vous montrer dans les deux derniers exemples que, comme en géologie de façon générale, c'est des choses qui évoluent. Lorsque vous avez une échelle stratigraphique avec des fossiles, ou une échelle stratigraphique des terrains, c'est quelque chose qui n'est pas stable et qui est toujours amélioré. Je vous remercie.